Bien, ben, bonjour tout le monde. Merci à Marie-Odile et Patricia de m'avoir invité à participer à cette journée. Quelques mots d'abord pour me présenter très rapidement. Donc, comme l'a dit Marie-Odile, je travaille à Grenoble en sociolinguistique. Je m'intéresse particulièrement à l'étude de la variation et du changement linguistique en français parlé, contemporain, le plus souvent de façon qualitative et aussi un petit peu de manière quantitative. Pour ma thèse de doctorat, qui commence à dater, je me suis particulièrement intéressé aux pratiques langagières de jeunes locuteurs, adolescents, préadolescents, hors de l'école. Donc c'est pour ça que c'est un point de vue un peu décalé, peut-être par rapport au thème des journées, mais le fait de je les observer et enregistrer et analyser hors de l'école, mais également dans l'école, parce que ça offrait un point de vue contrastif intéressant. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie qui a été faite hors de l'école, je dirais dans un cadre quand même de socialisation verticale, puisque c'était dans un centre social, avec une activité promue par un centre social, donc on n'est pas à l'école, mais on est quand même dans une activité encadrée, je dirais. Et puis ben, mes intérêts de recherche, c'est vraiment ces aspects de socialisation langagière, comment on devient adolescent grâce au langage, et comment on s'insère dans le groupe de pairs, notamment grâce au langage. Voilà, donc... pour introduire mon propos, je dirais que les objectifs de cette séance, un peu raccourcie du coup, c'est de mettre en œuvre ensemble une démarche interprétative, une démarche d'analyse interprétative, de réfléchir au ressort, à ce qui peut faire qu'on perçoit, comprend des énoncés d'une façon ou d'une autre, le sens qu'on donne non seulement aux énoncés, mais aussi aux situations. Et du coup, les positionnements ou les identités qu'on peut assigner à nos interlocuteurs sur la base de mots, de phrases, etc. Et tout ça, ça nous amènera à aborder quelques concepts que je ne veux pas trop théoriser. Enfin, je les aborderai sans les définir trop en détail. Voilà. Donc juste un mot sur mon ancrage, je dirais, théorique, qui est la sociolinguistique interactionnelle. Donc c'est une approche qualitative, compréhensive, qui tente de mettre en relation, en tout cas dans la façon dont elle a été conçue par John Gumperz notamment, qui prend en compte la diversité langagière, que ce soit la diversité des langues ou à l'intérieur d'une langue, la diversité des pratiques, l'hétérogénéité, la variation, et qui tente de mettre ça en lien avec les activités d'interprétation des sujets, c'est-à-dire comment tout ça fait sens et comment ça alimente ensuite des stratégies discursives et éventuellement identitaires, et comment ça peut influer à plus long terme sur le changement linguistique, par exemple. Donc encore quelques mots sur cette sociolinguistique interactionnelle. C'est un travail qui se fait, alors contrairement à, je ne sais pas si peut-être avez-vous déjà entendu parler de William Lebov qui fait une sociolinguistique sur des corpus fermés, recueillis par entretien généralement. Là, je dirais qu'on fait un peu feu de tout bois d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des corpus ouverts, et notamment des rencontres clés, selon le terme de Gumperz encore une fois, qui nous paraissent socialement significatives. Et c'est un de ces exemples sur lequel on travaillera ensemble tout à l'heure, une interaction qui me semble porter plein de potentialités en termes de compréhension de ce qui peut se passer dans les interactions adultes-adolescents, par exemple. Au niveau des méthodes, c'est une analyse qu'on appelle multiniveau, c'est-à-dire que encore une fois, on se focalise pas sur des aspects phonétiques ou des aspects lexicaux ou syntaxiques, mais on va prendre un peu tout ce qui vient et tout ce que les interprétants, c'est-à-dire les gens qui participent aux interactions, utilisent très souvent sans s'en rendre compte pour faire du sens, aussi bien le sens sémantique, référentiel, que le sens qu'ils donnent encore une fois à la situation. Et puis, on s'intéresse particulièrement dans cette perspective-là, aux malentendus communicationnels, notamment dans les situations interculturelles. Alors pourquoi les malentendus ? Parce que, en fait, un peu comme les études, alors c'est une métaphore qui a forcément ses limites, mais comme les études de certaines lésions peuvent nous renseigner sur le fonctionnement normal de capacités cognitives, eh ben, l'étude des malentendus peut nous renseigner sur le fonctionnement normal de la communication. Donc c'est un peu, voilà, l'idée de Gumpert, c'était celle-là. Alors les malentendus, je vous en donne un petit exemple ici, qui est célèbre dans cette littérature, je dirais, de sociolinguistique interactionnelle. Gumpert travaillait en Grande-Bretagne et avait été sollicité parce que des usagers, des clients, ça dépend comment on les voit, des réseaux de transport en commun se plaignaient de l'agressivité des chauffeurs de bus. Et en fait, bon, Gumpert a montré que c'était typiquement un malentendu interculturel ou culturel qui se basait sur l'intonation différente de l'anglais des chauffeurs de bus qui étaient souvent d'origine indo-pakistanaise. Donc ils avaient une manière de parler l'anglais qui était perçue comme agressive par les Britanniques, alors que c'était simplement de la variation prosodique ou phonétique. Voilà, un exemple de malentendu. Donc Gumpert, au début des années 80, avait produit des films justement pour essayer de mettre en évidence ce type de malentendu et travailler à la formation notamment des accompagnants, etc., dans ces compagnies-là. Donc, pour Gumpert et pour nous qui faisons de la sociolinguistique interactionnelle, l'interprétation de ce qui est en cours, des activités langagières, elle est rendue possible non seulement par, encore une fois, le système linguistique, mais aussi par tout un système, je dirais, qui est en arrière-plan, un système de croyances, de représentations, d'attentes stéréotypées, en fait, de concordance, hein, de co-occurrence entre un certain type de situation, un certain type de message, et puis des formes linguistiques ou communicatives. Hein, par exemple, si j'étais arrivé ici, si je vous avais salué en disant « Salut, ça roule », vous auriez dit « Il y a quelque chose qui cloche parce que ça ne correspond pas du tout à la routine, ça ne correspond pas du tout au dispositif de la salle, etc. » Et du coup, si j'avais commencé comme ça, vous auriez attendu un truc du type qui recontextualise ça comme soit une blague, soit quelque chose pour détendre l'atmosphère, en tout cas, quelque chose qui remette en route l'ordre normal des choses attendues dans une telle situation. Donc voilà, il y a cette idée d'incongruité. Donc c'est ce que Gumpert a appelé des indices de contextualisation, hein, ce qui va permettre de comprendre ce qui est en cours, et puis de comprendre aussi ce qui est dit. Hein, de la même manière que si on désigne quelqu'un par son prénom ou par monsieur ou madame, on n'établit pas du tout la même relation, hein, même relation sociale. Et du coup, tout ce qui va s'en suivre ne sera peut-être pas interprété de la même manière. Autre exemple pour illustrer cette notion d'indice de contextualisation, une certaine intonation fait très bien comprendre que ce qui est dit est de l'ironie, par exemple. Hein, et du coup, personne ne prendra au sérieux, sauf si on ne maîtrise pas cette petite clé qui n'est pas du tout enseignée à l'école, hein, qui fait qu'une certaine intonation va dénoter ou connoter un énoncé ironique. Voilà, donc je passe sur la définition des indices de contextualisation. Donc je vous disais, ces indices peuvent être de nature très diverse. Ce qui fait qu'on ne peut pas du tout en faire un répertoire ou un dictionnaire, puisque en gros, tout peut être indice de contextualisation. C'est-à-dire que si on est dans une situation bilingue ou plurilingue, le choix de la langue peut être indice de contextualisation. J'évoquais juste avant les termes d'adresse, hein, le tutoiement ou le vouvoiement, l'utilisation du prénom ou du nom de famille, le type de séquence d'ouverture. Donc je vous ai mis des exemples, bonjour, salut, wesh. Les choix lexicaux, et c'est sur cet aspect-là que portera mon exemple sur lequel on travaillera après, mais aussi tout ce qui concerne les mimiques, les postures, etc. Donc, et tout ça, ce que je disais, c'est que on le traite sans s'en rendre compte, et ça fait partie de la construction des compétences de communication que d'acquérir une certaine faculté à faire du sens avec tout ça. Alors, je vous parle d'interaction. J'aimerais prendre un tout petit premier temps. Je pense que vous avez déjà évoqué hier ce terme, mais faire un petit tour, un rapide, alors c'est pas un brainstorming parce que ça va être individuel, mais que vous posiez une petite définition de enfin, votre définition de l'interaction. Donc vous preniez 2 minutes ou 3 minutes pour réfléchir à ce que vous mettez derrière ce terme d'interaction de façon à ce qu'on puisse se mettre d'accord. Je vous donnerai ensuite ma façon de voir les choses, mais je voudrais que vous juste preniez 2 minutes pour... Ouais, en tout cas, il y a, enfin, une des questions, je pense, elle est soulevée, enfin, sur la conscience ou pas de l'interaction. Mais ce que vous disiez dans votre première définition, il y avait la notion d'influence réciproque. Et il me semble effectivement que si le groupe s'écarte et que la personne ne change pas de trajectoire, il y a bien cette influence réciproque. Enfin, même si elle n'est pas forcément consciente des deux côtés, je ne sais pas. Hein, il me semble qu'il y a l'interaction a eu lieu, même si une des deux parties n'a pas forcément conscience que la volonté, l'intention communicationnelle n'est pas forcément perçue telle qu'elle était, et c'est la base du malentendu. Hein, d'ailleurs, l'exemple que vous citiez là de cette adaptation sur un trottoir un peu étroit, ça donne lieu à des scènes un peu cocasses de cinéma où justement chacun va chercher à éviter l'autre, et puis finalement, deux ou trois fois pour se synchroniser. C'est le dysfonctionnement qui montre que justement on anticipe et qu'on essaye de faire en sorte que ce soit parfaitement huilé, en fait, parfaitement. Est-ce qu'il y avait d'autres définitions ou exemples qui pourraient susciter de la discussion encore, comme ces exemples-là qui étaient très intéressants? D'accord, donc là, l'interaction homme-machine, typiquement, c'est ce qu'on appelle l'interaction homme-machine, c'est à ça que vous...
Oui, elle existera.
Ouais, il y a une rétroaction sur les comportements humains. Ouais. Bon, après, on n'est plus dans l'interaction humain-humain, mais c'est vrai que c'est aussi un type d'interaction. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Je pense qu'effectivement, on a vu que... Ben, c'est le premier exemple auquel j'avais pensé, hein, cette idée qu'on se croise sans arrêt dans la rue avec des gens sans presque jamais se percuter, donc c'est que ça marche assez bien. Tenir la main, s'embrasser, des exemples plus classiques d'interaction verbale, qui peuvent être synchrones, asynchrones, etc., en présentiel ou à distance. Et puis, ben, on a des interactions qu'on qualifiera de pédagogiques, avec une certaine structure, etc. Goffman, donc, est un des sociologues qui de référence, je dirais, pour la sociolinguistique interactionnelle, définissait l'interaction comme l'influence réciproque que les partenaires exercent lorsqu'ils sont en présence physique immédiate, donc c'était assez limité, les uns des autres. Et puis une interaction comme... Un élément qui se, enfin, comme l'équivalent d'une rencontre, en fait, hein, avoir une interaction avec quelqu'un, avoir une rencontre, ça va être borné par un début, une fin, qui sera marquée par la présence ou l'absence. Alors, concernant les fonctions et les effets des interactions, on peut dire qu'elles ont pour origine l'existence de liens sociaux, plus ou moins privilégiés entre les individus, et qu'elles ont pour fonction aussi, d'une certaine manière, de confirmer l'existence de ces liens sociaux, parfois de façon rituelle ou fatigue. Hein, lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un, bon, c'est pas forcément lui souhaiter au sens étymologique du terme une bonne journée, mais juste confirmer qu'on a vu qu'il était là, qu'on le reconnaît, qu'on a une histoire qui se limite peut-être à se dire bonjour tous les jours, mais que voilà, on confirme un certain ordre social en quelque sorte. C'est ça qui serait un peu une unité minimale en quelque sorte de société, hein, ces micro-interactions. Pour des enseignants et des élèves, ce sont des instruments d'apprentissage, des instruments ou des moyens de vie du groupe, et puis également des moyens de régulation sociale, à la fois horizontaux et verticaux. Donc, l'étude des interactions, et notamment les aspects langagiers, sociolinguistiques des interactions, c'est un moyen, je dirais, de lire, entre guillemets, la société, ses règles de fonctionnement, ses hiérarchies, les lieux où cette société se reproduit, et puis parfois les lieux, justement, où elle change, où comme, par exemple, on entend dire que les mœurs s'informalisent, hein, c'est-à-dire qu'on a tendance, dans des situations formelles, employer des, par exemple, des formules de politesse qui sont moins élaborées, moins formelles qu'il y a quelques années, ce qui pourrait être le signe d'un certain changement, d'une certaine évolution culturelle, civilisationnelle, etc. Donc ça, on peut le saisir en quelque sorte dans les interactions, dans la description des interactions. Donc ces interactions, elles contribuent aussi à façonner le monde social, les relations, mais aussi les individus, dans leurs identités, leurs identités personnelles, mais aussi leurs appartenances, et y compris des choses qu'on penserait figées ou, entre guillemets, héréditaires, hein, comme des identités ethniques, ou biologiques, comme des identités de genre, dont on sait aujourd'hui très bien qu'elles s'apprennent, hein, qu'elles s'acquièrent socialement. Donc les interactions sont des vecteurs de socialisation, et comme je le disais à l'instant, elles sont le lieu aussi où se transmettent, s'inculquent, parfois se transforment des idéologies, des représentations, des attitudes, des normes et des valeurs. Et puis ben, on le verra dans l'interaction qu'on va étudier tout de suite, ben, il y a aussi des phénomènes d'influence sociale et de contrôle social qui peuvent passer par là. Alors, on va en venir à cette interaction précise, après avoir, je dirais, balisé un peu le champ et défini la notion. Donc, une petite contextualisation pour situer le... C'est très court, vous allez voir, ça dure à peu près une minute, donc il faut que je vous raconte un peu ce qui s'est passé en amont pour que vous puissiez saisir des choses. Donc, c'est dans le cadre de ma thèse, j'ai fait une observation participante dans un centre social dans lequel j'étais animateur, bénévole. Et puis, au départ, c'était pour faire de l'aide aux devoirs, donc de l'accompagnement périscolaire. Et puis, l'accompagnement périscolaire a été annulé parce que ça plaisait pas aux ados, aux pré-ados. Ils préféraient autre chose. Donc, du coup, on a quand même essayé d'élaborer un projet qui permettait de ne pas faire de périscolaire tout en ayant une visée éducative. Hein. On sait que les centres sociaux, socioculturels, MJC, etc., ont quand même un rôle socio-éducatif important. Donc on a réfléchi un petit peu, et puis on en est arrivé à concevoir l'idée d'un projet image, qu'on a appelé image, puisqu'il s'agissait en fait d'amener les ados, les pré-ados, hein, puisque c'était le groupe des 11-14, donc vous voyez que ça varie entre des grands enfants et des jeunes ados. Donc de les amener à réfléchir sur leur propre image, sur l'image que l'on donne de soi, sur l'image que les autres construisent de soi, et on y entrait en fait par l'image que eux avaient de leur quartier et que les gens qui circulaient dans le quartier avaient du quartier. Et donc la première action de ce projet, c'était de concevoir une sorte de guide d'entretien, hein, donc on a vraiment conçu avec les ados, de façon à les mettre en situation d'aller interviewer des adultes dans la rue, quoi. Des adultes inconnus, donc avec tout ce que ça peut comporter de justement de développement de compétences d'adaptation, de variation. Moi, ça m'intéressait beaucoup pour mon étude, et puis c'était intéressant d'un point de vue, je dirais, de l'éducation pour le centre social. Donc, un des objectifs, c'était donc d'élargir la gamme des situations auxquelles étaient confrontés ces ados, et de voir comment ça pouvait se passer. Donc, concrètement, on a consacré une séance de 2 heures à peu près à leur demander quelles étaient les questions qu'ils auraient aimé poser aux gens qu'ils allaient rencontrer. Donc évidemment, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais on a quand même réussi rapidement à trouver des thèmes, enfin vraiment construire un vrai guide d'entretien, un peu comme on peut le faire en recherche. Et puis à sélectionner des questions, à discuter de ce qu'on pouvait demander aux gens, de ce qu'on pouvait pas demander aux gens qu'on connaissait pas. Donc il y avait ce travail un peu en arrière-plan de réflexion sur l'adaptation à une situation, enfin des choses dont je viens de vous parler en fait. Et puis après, il y a eu un travail de mise en forme écrite de ce questionnaire, de façon à pouvoir poser ces questions à des gens qu'on connaissait pas. Donc voilà en gros le contexte. L'interaction que je vais vous présenter, vous faire écouter, c'est vraiment la première interview que vont faire les ados ou pré-ados. Donc ils ont une caméra, c'est eux qui tiennent la caméra, c'est eux qui filment, donc c'était aussi très intéressant parce que du coup, la caméra c'était un peu leur œil, hein, leur façon de voir la chose, leur zoom, etc. Donc ça c'était vraiment, vraiment intéressant d'un point de vue ethnographique. Et donc là, c'est la première interview, donc bien que certains aient parfois un peu des tendances à parler beaucoup et fort, et ben là, ils étaient un peu dans leurs petits sabots pour aller interviewer une personne inconnue. Donc, j'ai fait un peu le lien, on a abordé une dame qui était avec des enfants, et puis, elle pose des questions sur quel type d'interview il s'agit, donc on explique un petit peu. Et là, ce que je vais vous faire entendre, en deux temps, c'est vraiment le début, le tout début. Et là, vous allez voir qu'il se passe un petit truc. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais d'abord vous montrer le tout début de l'interaction. Alors, la transcription, vous le faire écouter. Je vous montrerai pas tout, parce qu'ensuite, je vais vous distribuer la transcription complète et vous travaillerez sur cette transcription. Mais je voudrais d'abord avoir votre réaction, justement, sans avoir tout ce qui se passe a posteriori. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter peut-être d'abord. Donc, tendez l'oreille. Je suis désolé, le son est vraiment pas génial. En fait, c'est une vidéo, puisque c'est la vidéo qu'ont filmé les ados, mais comme j'ai pas les autorisations de toutes les personnes, je la montre pas. Par contre, le son, ça pose moins de problèmes. Donc, vous allez voir, le son est très bas au début parce qu'il y a un réglage par rapport au micro et tout ça, et après, on entend mieux. Donc, vous inquiétez pas, je vous donnerai la transcription intégrale après. Il y a juste, sur la transcription, il n'y a pas le tout début, mais je vous en dirai quelques mots après quand même. Donc, première écoute complètement flottante, pas de consigne. Écoutez.
C'est pas mal que vous posez les questions.
Tu réponds
ou non ? Non, surtout pas, je réponds pas.
C'est quel genre de question ?
C'est sur le quartier.
Sur les boîtes ?
Ah, moi je connais, ouais, mais je ne réponds pas. Je connais pas.
Voilà, on est arrivé là. Donc, vous voyez que bon, il y a une première question qui est sur les déplacements dans le quartier. Ce sont des questions qui sont sur les questionnaires, donc qui sont écrites. Hein, vous remarquez que bon, la dame au début, elle prend un peu l'ascendant, c'est-à-dire qu'en fait, fait le premier pas pour aider un peu les ados à poser leurs questions. Donc, elle sollicite les questions. Et du coup, elle va se positionner dans une position un peu haute dans l'interaction. C'est elle qui mène, alors que dans une interview, c'est généralement l'intervieweur qui prend le taureau par les cornes, on va dire. Donc, voilà, on en est là. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous avez une réaction ?
X, c'est la dame, c'est ça ?
X, non, X, c'est une jeune fille, pardon. C'est sur la transcription. X, c'est la petite fille qui accompagne la dame. C'est Clara, c'est une pré-ado qui est avec nous, dont X c'est cette petite fille, I c'est l'interviewé, et K c'est Kader. Voilà, donc je sais pas ce que vous avez une... Je vous le fais réécouter.
C'est pas moi qui vous pose la question.
Tu réponds ?
Non, surtout pas, je réponds pas.
C'est quel genre de question ?
C'est sur le quartier.
Sur les boîtes ?
Ah, moi je connais, ouais, mais je ne réponds pas. Je connais pas Kader.
Alors ?
Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Vous avez peut-être déjà entendu, de toute façon, c'est pas très grave. Donc, est-ce que vous avez une réaction déjà ? Est-ce que vous connaissez les fricasses ? Non. Pour vous, ça se mange. C'est l'heure vous avez déjà faim ? Parce que fricassé. Ouais, ça vous... En tout cas, vous avez une inférence là assez immédiate sur nourriture, ok ? Ouais. Non, c'est pas un quartier. Non, la première inférence était bonne. Hein, c'est fricasse, fricassé, effectivement, c'est quelque chose qui se mange. Donc on va voir en fait que la dame, comme vous, ne connaît pas ce mot-là. Il est proche de la caméra. Ouais. Et Clara était effectivement plus éloignée de la caméra. Ça, c'est aussi sur la transcription.
Une question ?
Il y a un livre qui est
C'est la petite fille en fait qui accompagne la dame. De X, ouais, X, c'est la petite fille. En fait, je connais pas son prénom, c'est pour ça que je l'ai appelée X. Mais c'est la petite fille. Je sais pas si c'est la fille de la dame, mais en tout cas, c'est pas un membre du groupe d'adolescents. Tout à fait. C'est ça, en fait. C'était également une question écrite qui était sur le questionnaire, formulée de cette manière-là, avec l'interrogation inversée, on peut dire standard. Hein. Marie-Thé.
Oui, je m'interrogeais sur le après, en 18. Tu nous as dit que la dame prenait l'ascendant à un moment. Est-ce que c'est à partir de cet après? Et est-ce qu'il est interrogatif?
Oui, en fait, c'est une sollicitation de la question suivante. Hein. Et il y en a déjà un, il y a déjà quelque chose de cet ordre-là.
Est-ce que ça pourrait être une entame d'une suite de discours?
Non, après, c'est vraiment elle qui marque une pause et qui dit après, question suivante. Et auparavant, il y a déjà ce type de taxem, je dirais, c'est-à-dire le moment où elle prend position, où elle dit alors, c'est-à-dire bon, j'attends, à vous.
Donc tout ça, évidemment, interrogatif.
Voilà. Donc, elle sollicite les questions. Mais au départ, moi, je trouve que c'est plutôt collaboratif. Hein. C'est plutôt dire, allez-y, j'attends. Mais en même temps, c'est dire, bon, mon temps est précieux, dépêchons-nous. Enfin, il y a cette ambiguïté-là dès le début. Donc, maintenant, je vais vous distribuer la transcription. Enfin, Patricia va vous distribuer la transcription. Et vous allez voir que... Donc la dame, elle marque un temps d'arrêt, un sourire un peu crispé, gêné. Donc j'ai noté ici, hein, j'ai essayé de décrire le mieux possible ses attitudes non-verbales. Elle me regarde, elle regarde donc l'adulte qui accompagne les ados pour savoir en gros de quoi il retourne, quoi. Donc moi, j'ai pas été très coopératif sur ce coup-là puisque j'étais vraiment très intéressé de voir ce qui allait se passer. Et comme vous pouvez le remarquer, la dame enchaîne avec une locution en allemand, hein, une expression en allemand, was ist das, qui rime avec fricasme. C'est un hasard. Mais en tout cas, was ist das, est-ce que parmi vous, enfin, qui connaît cette expression même sans être germanophone, c'est comme Kesako. Je vous remercie d'avoir remarqué le clin d'œil. C'est exactement comme Kesako, ça fait partie de ces locutions courantes. Alors, c'est sans doute générationnel pour Was ist das, hein, que peut-être on comprend moins facilement aujourd'hui, enfin que les jeunes d'aujourd'hui comprennent moins facilement, mais que ma génération, celle de mes parents, la nôtre en gros, comprennent tout à fait bien, quoi. Donc, il me semble qu'on peut lui faire crédit, en tout cas, du fait qu'elle pense que ça va être compris, quoi. Et vous voyez que Kader, donc en 21, comprend qu'elle n'a pas compris. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, du coup, il répète. Ouais, il reformule pas, il répète. Alors, on pourrait discuter de savoir s'il y a reformulation ou pas, dans la mesure où... il va y avoir quand même des marques d'adaptation très fines, du type articulation plus prononcée, des choses comme ça. Mais effectivement, il reformule pas, il répète. Mais lui, il répète quelque chose qui, pour lui, est légitime, puisque ça a été validé par le centre social, les animateurs, c'est écrit sur son questionnaire, la question est bien formulée. Donc, pour lui, il n'y a pas de problème de compréhension. Alors, s'il y a problème de compréhension, il se situe où, d'après vous? Ouais. Donc il y a voilà le malentendu, ça y est, il est là, on y est. Du coup, effectivement, c'est le mot fricasse qui pose problème. Elle, en fait, vous remarquez qu'elle dit qu'est-ce que c'est? Was ist das, je suis pas germanophone, mais littéralement c'est qu'est-ce que c'est, hein, me semble-t-il. Mais elle le dit-elle de façon à être absolument sûre d'être comprise? Est-ce que vous auriez réagi comme ça? Est-ce que vous auriez dit Kesako, was ist das, ou c'est quoi une fricasse, ou
Non, c'est ça, c'est ça.
Je suis pas, enfin, au moment où elle le dit et la manière dont elle est orientée quand elle parle, je suis pas sûr que ce soit à moi, mais ça, on l'a explicité en amont, en fait. On a dit que c'était le projet du centre social, que c'était un film sur le quartier, des questions sur le quartier. Mais effectivement, il y a cette inversion, en tout cas, ce jeu de place qu'elle, enfin, elle perd effectivement la maîtrise de l'interaction. Et puis il y a un autre enjeu, me semble-t-il. Peut-être qu'on y arrivera après. Mais ce que je voudrais vous proposer là, c'est peut-être de réécouter et puis d'essayer, alors peut-être en petit groupe, hein, de travailler sur la façon dont ça s'enchaîne. Et c'est ce que vous avez commencé à faire là très bien, savoir comment chaque interlocuteur interprète l'énoncé qui vient de se produire, et du coup comment on peut, nous, avec le recul qu'on a de la fin de l'interaction, relire cette interaction comme vous avez commencé à le faire. Ouais. Mmh. C'est son quartier. Et on est dans le quartier. Et pour aller un peu plus loin dans le sens de votre question, qui est tout à fait pertinente, enfin en tout cas qui va dans un sens intéressant, c'est le fait que les Fricasses, en fait, on est sur une place du péricentre de Grenoble, on n'est pas du tout en banlieue, on est proche de la gare à Grenoble, et on est sur une place où il y a, je sais pas, je vais pas les compter, mais il y a une dizaine de kebabs autour, et dans tous les kebabs, on vend des Fricasses. Ça, c'est le premier élément de contextualisation culturelle, je dirais. Sauf qu'elle ne va pas manger dans les kebabs. Par contre, pour Kader et pour tous les ados qui... C'est une évidence. C'est une évidence, et c'est d'autant plus une évidence importante que d'un point de vue, je dirais, anthropologique, aller manger dans un kebab pour des ados, des pré-ados, c'est aussi le début de l'émancipation. C'est avoir de l'argent de poche, c'est ne pas manger avec ses parents... C'est quelque chose qui est... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. L'importance d'avoir mis cette question, c'est parce que la fricasse, c'est le truc qui est moins cher que le kebab, qu'ils peuvent déjà s'acheter. Donc, il y a vraiment une relation culturelle forte à cet objet. Et ce qui était intéressant par rapport à votre question aussi, c'est que les animateurs qui étaient présents lors de la séance où on a élaboré les questions, personne n'a eu besoin d'explications, puisqu'on avait tous déjà mangé des fricasses. Et effectivement, on avait aussi compris que pour eux c'était important, mais c'est vrai que la dame, c'est pour ça que c'est d'une certaine manière une rencontre interculturelle, parce que d'un point de vue générationnel et des pratiques alimentaires, on voit qu'il y a des fortes différences. Elle a une quarantaine d'années, mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Je suis absolument d'accord avec l'interprétation que vous avez faite, que la dame est déstabilisée. Après, c'est sur la manière dont elle réagit sur le vif du sujet, quoi. Moi, la responsabilité que j'ai, c'est de ne pas intervenir tout de suite pour dire « c'est un sandwich ». Non, honnêtement, je ne pense pas, puisqu'elle est... Je ne sais pas si c'est la deuxième dans... J'ai plus le questionnaire en tête, l'ordre des questions. Mais pour Kader, qui pose la question... Elle est légitime, quoi. Elle est sur son questionnaire, elle a été validée, elle est formulée exactement comme elle est écrite. Et je pense que sa propre interrogation vient du fait que, pour lui, c'est évident que ce que c'est qu'une fricasse. C'est pour ça qu'il ne reformule pas, en fait. Et lorsqu'on a élaboré le questionnaire, on ne l'avait pas du tout anticipé, parce que c'était... Voilà. C'est vrai. C'est les deux premières questions. C'est le début de l'interaction, ouais. Ouais, c'est Grenoble. Hein. Non, c'est propre à Grenoble, il n'y a pas de... Mais la dame habite le quartier, enfin, elle a des enfants. Bien sûr. Kebab, shawarma, fricasse. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle habite le quartier. Moi, je connaissais fricassé aussi, c'est pour ça que... J'ai... En fait, mon inférence personnelle sur la situation, c'était que... soit elle n'avait pas fait du tout cette inférence que vous avez faite immédiatement en disant fricassé, ça doit être à manger. Alors il y avait soit cette possibilité là, soit la possibilité toute simple de dire je sais pas ce que c'est ou mais de quoi tu me parles, de plein de manières différentes. Mais effectivement, le choix qu'elle fait à ce moment là il est celui de je pense que le premier choix il est un peu attentiste, le deuxième il l'est beaucoup moins. Pardon.
Je suis assez d'accord. En tout cas, elle manifeste là une compétence dans une autre, voire deux autres langues, du coup. Mais les utilise d'une manière un peu particulière. Mais je suis entièrement d'accord avec ça aussi. Et on revient à cette histoire de place, je pense, hein, de place relative dans l'interaction, et aussi de face. Hein, on viendra sur cette notion après. Tout à fait, tout à fait. J'ai la même interprétation, vraiment. Ouais. En tout cas, lui ne comprend pas le sens de Vasisdas. Il a compris le sens global de l'énoncé qui est... Bon, il est peut-être un peu francisé, hein, je sais pas. Alors, no sé lo que es. No sé lo que es, c'est je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est intéressant ce qu'elle dit en allemand, qu'est-ce que c'est, et en espagnol, je ne sais pas. Donc, il y a aussi une progression thématique, en tout cas dans son propos, mais qui n'est pas fait pour être entendu et compris, en tout cas. Elle le dit sans le dire, d'une certaine manière. Je pense qu'on arrive... On lui dit un mot étranger pour elle. Je pense que l'étrangeté, elle est... Alors, elle peut être un peu... au faciès, puisque Kader est d'origine maghrébine et Nelson qui filme à ce moment-là est d'origine antillaise, donc elle a de la diversité en face d'elle, comme on dit aujourd'hui. Donc ça peut jouer effectivement sur sa perception et sur une sorte d'horizon d'attente par rapport à ce que ces jeunes sont capables de faire dans la discussion. Et je pense que cette étrangeté ou altérité, elle est générationnelle. Et puis elle est peut-être aussi sur comment dire une sorte d'image sociale qu'elle a présente plus ou moins stéréotypée sur excusez-moi je vous ai pas entendu. Voilà, c'est ça, hein. Alors sur la base de différents éléments mais notamment l'allure générale de ces deux garçons OK. Donc pardon. Malgré les deux accompagnateurs. Et bon, vous voyez qu'en fait, ici, ce qui se passe lorsqu'elle produit son énoncé en espagnol, elle fait vraiment bon, on ne le voit pas, hein, mais je l'avais mis sur une. Vraiment un geste de la tête qu'on peut tout à fait interpréter comme etoc. Hein, vraiment, no sé lo que es. Ouais, d'une certaine manière, je mouche, quoi. Je touche. Et là, justement, on parlait de face, enfin de place. Vous voyez qu'en 23, c'est Kader qui, lui, est obligé de produire de manière intelligible la marque d'incompréhension. Hein, donc, elle réussit au prix de d'une espèce de coup de force, en fait, avec ces deux alternances de codes qu'on pourrait appeler opacifiantes, hein, parce qu'elle ne cherche pas à être vraiment comprise. Alors, encore une fois, c'est intéressant de dire qu'elle, moi, je comprends, mais son interlocuteur direct ne comprend pas. Donc c'est lui qui se retrouve en position basse, là, du coup. Et c'est le moment qu'elle choisit pour lui dire, bon, elle énonce... Alors le fait qu'elle le tutoie, ça me paraît pas... Enfin, ça me paraît à peu près normal, je veux dire, dans la relation. Mais c'est vrai que... Voilà, c'est vrai que cette manière d'expliquer ce qui vient de se passer, donc de lui faire la leçon, vraiment... Je pense que pour Kader, c'est vraiment une atteinte forte à sa face, hein, devant ses copains. Et du coup, vous voyez qu'il ne se démonte pas du tout. Lui, il dit « Aimez-vous l'efficace ?» Donc, il ne voit pas pourquoi elle le prend mal, en fait, je pense, vraiment, hein, à ce moment-là. Donc là, il va à la fois ralentir le débit, surarticuler, et... je vais vous le faire réécouter, peut-être, mais c'est intéressant... Attendez, je vais juste faire un truc. Ça sera mieux comme ça. Donc, écoutez la façon dont il va le réaliser.
Après,
aimez-vous l'efficace ?
Vas-y, Zda.
Aimez-vous l'efficace ?
Non, c'est l'OKS. Je te réponds aussi compréhensible que toi qui me poses la question. Je comprends pas, tu comprends pas.
Aimez-vous l'efficace ?
Donc, vous voyez qu'il il a ralenti, vous voyez, vous entendez mal, mais il ralentit le débit. Et puis surtout, il va produire un R nettement moins marqué, nettement moins postérieur, qui fait que la dame va entendre un L. Hein? Et là, Eureka, en quelque sorte, pour elle, elle a enfin compris. Et là, d'une certaine manière, c'est ce qui confirmait, à mon sens, l'idée d'attente, d'image un peu stéréotypée du jeune qui va, enfin, dans le thème qu'il va manier, va tout de suite aller vers quelque chose de contre-normé, de voilà. Et il me semble que ça valide en quelque sorte cette hypothèse de dire elle avait cet horizon d'attente un peu. Ah, mais il n'est pas du tout exclu qu'elle soit bilingue ou plurilingue. Ouais. Je pense même dans la première interprétation que j'avais faite, je pense que c'était effectivement, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est aussi un moyen de se remettre en valeur et de reprendre une position plus valorisée dans l'interaction en faisant valoir sa compétence plurilingue, là, en tout cas.
Mais ça peut être aussi parce que ça...
Voilà, cette idée de creuser l'écart, je pense qu'elle est intéressante puisque ça nous renvoie à cette notion de... à la notion d'accommodation, et ici d'un choix d'accommodation vraiment divergente, hein, puisque, en fait, elle prête à Kader cette intention divergente, et elle va l'adopter elle-même, en quelque sorte, c'est sa loi du talion, là, c'est œil pour œil.
Dans la culture. Ouais. Si tu
m'envoies
ça, tu renvoies ça.
Ouais, c'est ça, enfin... Mais avec cette attitude peut-être un peu hautaine au moment où elle va dire non, c'est pas facile, encore une fois je lui ferai vraiment crédit du fait que ça peut être compris, enfin que par contre sur le no se lo que es et sur l'attitude qu'elle a à ce moment-là et sur l'énoncé suivant, il me semble que là c'est beaucoup moins ambigu sur son intention, enfin en tout cas sur son intention et sur la manière dont c'est compris. Et puis donc vous voyez qu'ensuite l'interaction elle évolue à partir du moment où tout le monde comprend qu'elle ne comprend pas. Donc il y a un rire qui libère un peu la tension à ce moment-là. Elle perd du coup la face, hein, parce qu'en fait c'est comme je prenais l'image que c'est un peu comme si elle avait parié plusieurs fois et que du coup elle perdait la mise à ce moment-là, puisque là effectivement tout le monde éclate de rire. Et du coup, en fait, tout cet épisode qu'on pourrait appeler une séquence latérale, hein, où vraiment il est question d'expliciter le sens d'un mot, même si ça ne se passe pas sans difficulté, prend fin avec l'intervention de Nelson, l'an 27, qui dit « Non, les fricasses, c'est quelque chose qu'on trouve au kebab, c'est de la nourriture, quoi. » Sur le ton vraiment de l'évidence, c'est des sandwichs, moi je rajoute c'est un petit kebab, en fait. Enfin, tout le monde y va de son explication différente. Ce qui nous fait dire aussi, enfin, ce qui me fait dire que ça aurait pu se passer comme ça dès le premier énoncé de fricasse, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres... disons qu'il n'y avait pas de but précis. Le but, c'était de favoriser le contact, un contact détendu entre des ados et des adultes inconnus. Et effectivement, ça ne se passe pas très... Enfin, en même temps, on en parle beaucoup, mais c'est un tout petit épisode, c'est pas très grave. C'est pas très grave, sauf que Kader, lui, il va se désengager de l'activité dans laquelle il s'était engagé. Et du coup, il va prendre la caméra, et puis il va faire un peu le con avec la caméra. Donc, il y a à la fois, c'est pas très grave, et à la fois, on voit que ça peut avoir des conséquences en termes de motivation, d'investissement dans ce qui est en cours. Parce que lui, je pense, s'est senti... Bien qu'au final, il y ait ce rire qui détend un peu tout et que l'interview va continuer, en fait, hein, donc ça se passe pas trop mal. Mais lui, en tout cas, personnellement, je pense qu'il l'a pris un peu pour lui et que du coup, il s'est vraiment désengagé de l'activité et durablement, je dirais. Donc c'est un peu sur cet aspect-là, pardon, qu'on peut faire le lien avec ce qui peut se passer éventuellement en classe, ou à l'école plus généralement. M, c'est Marie-Noël, c'est une autre animatrice. Là, c'est vraiment passons vite à autre chose. Et d'ailleurs, vous voyez que l'interviewé tente de reprendre sa position avec après. Donc, à nouveau, next question, quoi. Question suivante.
La petite fille, elle s'adresse à sa mère.
La petite fille X. Je sais pas. Si elle sait le sens de fricasse.
Elle parle pour tout le monde.
Vous parlez de quel
C'est des sandwichs.
Ah, c'est des sandwichs. Je sais pas qui c'est en fait. C'est des sandwichs. Je sais pas qui. Non, c'est un point d'interrogation. Je sais pas qui
elle
le. Qui,
X,
ouais.
Elle
s'appelle
pas point
d'interrogation. Non. Bah la petite fille en fait. Elle est importante parce qu'elle rit, je pense, au départ. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, elle, vous voyez, elle dit plein de choses, effectivement. Mais c'est pas la petite, c'est une petite fille qui ne fait pas partie du groupe et qui, c'est une petite fille qui accompagne la dame, qui est avec elle. Mais je ne pense pas que ce soit sa fille, si je me souviens bien. Non, mais je pense qu'effectivement, son rire... Bon, au début, elle est un peu, comment dire... un peu parasite dans la mesure où elle prend la parole. Donc, c'est pas très grave, hein. Mais je pense qu'effectivement, le rire qu'elle produit quand, à la première occurrence de fricasse, je pense qu'il est important, effectivement, parce que ça peut contribuer à précipiter un peu l'impression de cryptage et donc de divergence de la part de Kader. Le premier rire, hein, tu parles du... Ouais, non, il n'y a vraiment que elle qui rit. Après, il y a un rire général au moment où il y a fricasse. Là. Mais là, c'est vraiment que elle qui rigole. Ouais.
Bah, du coup...
Juste pour récapituler peut-être un petit peu tout ce que vous avez dit. En gros, tout ce qu'il y avait à voir, vous l'avez vu de différentes manières, de différents points de vue. Hein, donc on parlait d'un malentendu. En fait, ce qu'on a au départ, c'est juste un phénomène de variation qu'on pourrait appeler variation diatopique ou régionale. Hein, c'est-à-dire que à Grenoble, on parle de fricasse pour désigner... pain frit avec de la viande à kebab dedans, hein, comme ici il y a sans doute d'autres trucs. Donc phénomène de variation qui va donner lieu à une interprétation qui dépasse largement le simple phénomène de variation lexicale. D'où cette idée que vous avez très bien énoncée de malentendu qui n'est pas seulement linguistique mais aussi communicatif et culturel. Alors moi il me semble que il y a dans la façon dont la dame dit « je ne comprends pas ta question, tu ne comprends pas ma réponse », en fait, elle assigne à Kader une incapacité ou une absence de volonté de s'adapter. Hein. Alors que moi, j'aurais tendance à être un peu plus critique envers elle là, sur ce point-là, dans la mesure où elle aurait pu simplement, elle, montrer une attitude coopérative, hein, donc en reprenant cette idée de Maxime... De qualité, soyez intelligible. Si elle avait dit qu'est-ce que c'est à la place de Vassida, je pense que je ne serais pas là en train de vous parler de ça. Ça aurait été dommage. Donc il y a cette idée d'atteinte à la face, hein, qui est présente de part et d'autre, me semble-t-il. Et notamment parce que dans une relation ici dissymétrique, où la dame a vraiment construit une position haute, sans que ce soit, négatif, hein. Elle prend l'ascendant dans l'interaction, ce qui semble tout à fait logique. Elle supplée un peu à la timidité des ados. Mais du coup, ça fait qu'elle se retrouve un peu coincée et enfermée dans cette position haute qu'elle est obligée de maintenir coûte que coûte. Et je pense que c'est aussi ça qui l'amène à parier sur le fait qu'elle va gagner là-dessus, quoi, entre guillemets, bien sûr. Donc elle produit des alternances de code, hein, alternances de code, changement de langue, qui sont pour le coup opacifiantes, qui disent sans dire ou qui disent pour ne pas être tout à fait compris, etc. Donc, ce qu'on reproche souvent aux élèves, hein, d'utiliser leur langue en classe pour ne pas être compris, alors que bien souvent c'est simplement pour faire comprendre, pour aider à comprendre ou pour marquer une proximité, etc. Et puis, il y a cette leçon, c'est vraiment un cas d'école, hein, qui va atteindre la face à Kader. Et comme je vous le disais, en fait, elle lui assigne une certaine identité, hein, une identité qu'on pourrait dire déviante ou en tout cas peu coopérative ou quelque chose comme ça. Et du coup, Kader, il va endosser cette assignation identitaire, il va la faire sienne pour, je vous disais, se désengager, perturber les autres ados qui continuent à faire l'interview et dans les interviews suivantes. Donc il y a vraiment un effet sur l'attitude et la motivation qui va manifester. Donc les hypothèses qu'on peut faire, il y a cet aspect linguistique, on parlait de l'aspect de Kader, donc sa taille, il est plutôt grand, le fait qu'il soit d'origine maghrébine, l'image sociale qui nous est confirmée, me semble-t-il, par l'interprétation flicasse, donc avec le suffixe quand même très péjoratif de la part de la dame, montre cette espèce d'horizon d'attente par rapport à ce que sont capables de faire ces jeunes, ce qui nous renvoie à tout un tas de discours sur la jeunesse, sur les jeunes, et notamment les jeunes issus de l'immigration, etc. Voilà. Puis bon, sur les aspects atteintes à la face, on a déjà largement vu ça. Juste un point sur cette notion de face, mais je vais aller plus vite que prévu. Sur cette notion de face, c'est à la fois quelque chose de très individuel, puisque ça renvoie à cet aspect psychologique, estime de soi et tout ça, mais c'est aussi, en quelque sorte, la valeur sociale qu'on pense que les autres nous attribuent. Donc il y a vraiment aussi une dimension très sociale et très structurelle dans cette notion de face. Donc cette idée de faire bonne figure, elle n'est jamais détaché ou déconnecté de toutes les valeurs et les normes sociales, en quelque sorte. Voilà. Et du coup, on a vu aussi, me semble-t-il, que l'atteinte, ce qui est perçu comme une atteinte à la face, va être réparé, entre guillemets, par une autre atteinte à la face. Voilà. Alors, les notions que je voulais pointer... prendre un tout petit peu de recul par rapport à cet extrait-là. Donc il y avait ces notions de place et de face qui me semblent intéressantes et qui me semblent faire partie d'un espèce de corpus de notions de sciences humaines qui me paraissent intéressantes de travailler avec des enseignants, mais peut-être aussi avec des élèves, me semble-t-il. C'est peut-être une piste à travailler. Sur le fait que on a besoin d'avoir une image positive de soi-même, que c'est des choses qui paraîtraient mériter de s'y arrêter. Des autres notions qui sont en jeu ici, c'est la notion d'attribution causale qui vient plutôt de la psychologie sociale, sur le fait qu'on a tous et toutes des hypothèses qui nous permettent d'expliquer les événements du monde social qui nous entoure et notamment les comportements d'autrui ces attributions qu'on fait sur la cause, sur le fait que pourquoi X se conduit comme ceci plutôt que comme cela alors que moi j'aurais pas fait ça, c'est souvent sujet à ce que les psychologues sociaux encore eux appellent l'erreur fondamentale d'attribution. Lorsqu'on cherche à expliquer le comportement d'autrui, on va avoir tendance à privilégier des causes internes, c'est-à-dire à dire, en gros, c'est de sa faute. C'est parce qu'il est comme ça ou parce qu'elle est comme ça qu'il se conduit comme ça. Et on va avoir généralement tendance à minorer l'influence des facteurs externes ou situationnels. Typiquement, lorsqu'un étudiant échoue un examen, on va dire, oui, mais tu pouvais pas... l'examen était très difficile, soit tu n'as pas eu le temps de te préparer, donc on peut privilégier des causes externes. Ou alors, ça peut être des causes vraiment internes, du style « j'ai pas travaillé », donc qui vont mettre en avant la responsabilité de la personne. Donc, cette erreur fondamentale d'attribution, elle me semble vraiment à l'œuvre extrêmement souvent dans les interactions ordinaires. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à voir les gens et à expliquer leur comportement par des traits identitaires, par exemple. Ça peut être garçon-fille, ça peut être bon élève, mauvais élève, ça peut être jeune, moins jeune, jeune, issu d'immigration ou pas. Enfin, ce genre de phénomène va faire que on va s'attacher à ça plutôt que de rechercher des causes qui pourraient être beaucoup plus labiles et je dirais, contextuelles. Et puis les autres aspects qui me semblaient aussi intéressants à faire ressortir de cette interaction et plus généralement des travaux en sociolinguistique internationale, interactionnelle, c'est la théorie de l'accommodation, en fait, et les notions de convergence ou de divergence, où là, on voit que la dame, elle va prendre une posture vraiment divergente, même si, au départ, encore une fois, elle peut être dans une sorte d'entre-deux. Elle prend ensuite une position divergente qu'elle explicite et qu'elle justifie par le fait qu'elle attribue à Kader cette même position divergente. Donc ces aspects-là reposent en fait sur sur des théories psychosociales aussi, qui s'appuient notamment sur le fait que plus on va ressembler à son interlocuteur, plus on va minimiser les différences, donc plus on va ressembler et plus on a de chances que ça se passe relativement bien. Une théorie de similarité-attraction. Donc il y avait aussi ce que Violaine a évoqué, les maximes de Gris, les principes de la communication qui découlent du principe de coopération, hein, qui peuvent être aussi intéressantes éventuellement à expliciter. Et puis, pour finir, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je pense que Maria vous en parlera, c'est la notion d'effet de halo aussi, où on va servir d'un élément dans une situation et qu'à partir de cet élément, on va généraliser et inférer des informations dont on ne dispose pas et des informations qui, du coup, vont être potentiellement erronées sur la personne qu'on a en face de nous. Donc, que ce soit un interlocuteur ou un élève ou un prof dans le cas des élèves, etc.